La lecture du crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons à la moitié du 15e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.
Trémorel était un de ces hommes dont la vie épouvante le vulgaire, que le bourgeois idiot juge sans foi ni loi, dont les passions exorbitantes font éclater le cadre étroit des préjugés. Un de ces hommes qui dominent les autres, qu'on redoute, qui tue pour un regard de travers, qui sème l'or d'une main prodigue, dont la santé de fer résiste à d'effroyables excès, qui conduisent de la même cravache leurs maîtresses et leurs chevaux, les plus belles et les plus extravagantes créatures de Paris, les plus nobles bêtes de l'Angleterre. Souvent, dans ses rêveries désespérées, elle avait cherché à imaginer ce que pouvait être ce redoutable comte de Trémorel. Elle parait des qualités qu'elle lui supposait, les héros aux bras desquels elle s'enfuyait, bien loin de son mari, au pays des aventures. Et voilà que tout à coup il lui apparaissait. « Donne donc la main à Hector, » dit Sauvresy. Elle tendit sa main, Trémorel la serra légèrement, et à ce contact, il lui sembla qu'elle recevait la secousse d'une batterie électrique. Sauvresy s'était jeté sur un fauteuil. « Vois-tu bien, Berthe, » disait-il, « notre ami Hector est épuisé par la vie qu'il mène. On le serait à moins. » On lui a ordonné du repos, et ce repos, il vient le chercher ici, près de nous. « Mais, mon ami, répondait Berthe, ne crains-tu pas que monsieur le comte ne s'ennuie un peu ici ? Lui ? Pourquoi ? Le Valfeuillu est bien tranquille, nous sommes de pauvres campagnards. » Berthe parlait pour parler, pour rompre un silence qui lui pesait, pour forcer Trémorel à répondre et entendre sa voix. Tout en parlant, elle observait et étudiait l'effet qu'elle lui produisait. D'ordinaire, sa rayonnante beauté frappait ceux qui la voyaient pour la première fois d'un visible étonnement. Lui restait impassible. Ah, qu'elle reconnaissait bien à cette froide, à cette superbe indifférence, le grand seigneur blasé, le viveur qui a tout essayé, tout éprouvé, tout épuisé. Et de ce qui ne l'admirait pas, elle l'admirait davantage. Quelle différence, pensait-elle, avec ce vulgaire Sauvresy, qu'un rien n'étonne, qui s'ébahit de tout, dont la physionomie trahit toutes les impressions, dont l'œil annonce tout ce qu'il va dire bien avant qu'il ouvre la bouche. Berthe se trompait. Hector n'était ni si froid ni si impassible qu'elle le supposait. Hector tombait simplement de lassitude. Ses nerfs bandés outre mesure pendant 24 heures se détendaient et c'est à peine s'il pouvait se soutenir. Bientôt, il demanda la permission de se retirer. Rester seul avec sa femme, Sauvresy racontait à Berthe les circonstances déplorables, ce fut son mot, qui amenait le comte au Valfeuillu. Ami sincère, il évitait tous les détails capables de donner un ridicule à son ami. « C'est un grand enfant, disait-il, un fou, son cerveau est malade, mais nous le soignerons, nous le guérirons. » Jamais Berthe n'avait écouté son mari avec cette attention. Elle semblait l'approuver, mais en réalité, elle admirait Trémorel. Oui, comme Miss Fancy, elle était frappée de cet héroïsme, gaspiller sa fortune et se tuer après. Ah, soupirait-elle, ce n'est pas Sauvresy qui en ferait autant. Non, Sauvresy n'était pas homme à se conduire comme le comte de Trémorel. Dès le lendemain de l'arrivée du comte au Valfeuillu, il annonça son intention de s'occuper sans retard des affaires de son ami. C'était à l'issue du déjeuner, dans la jolie serre disposée en salon qui suit la salle de billard. Bien reposé après une bonne et longue nuit dans un lit excellent, sans inquiétude pressante pour le moment, le désordre de ses vêtements réparés, Hector n'avait plus rien du naufragé de la veille. Il était de ces natures sur lesquelles les événements n'ont pas de prise, que 24 heures consolent des pires catastrophes, qui oublient les plus sévères leçons de la vie. Chassé par Sauvresy, il n'eût su où aller, et cependant il avait repris déjà l'insouciance hautaine du viveur millionnaire, habitué à plier à son gré les hommes et les circonstances. Il était redevenu impassible, froidement railleur, comme si des années s'étaient écoulées depuis sa nuit d'hôtel garni, comme si les désastres de sa fortune eussent été réparés. Et Berthe s'étonnait de ce calme après de si surprenants revers, prenant pour de la force d'âme ce qui n'était chez Trémorel que puérile imprévoyance. « Ça, disait Sauvresy, puisque je deviens ton homme d'affaires, donne-moi mes instructions et quelques notions indispensables. Quel est ou était, comme tu voudras, le chiffre de ta fortune ? Je l'ignore absolument. » Sauvresy, qui s'était armé d'un crayon et d'une grande feuille de papier blanc, prêt à ranger des chiffres en bataille, parut un peu surpris. « Soit, reprit-il, mettons un X à l'actif et passons au passif. Que dois-tu ? » Hector eut un geste superlativement dédaigneux. « Je n'en sais, ma foi, rien, répondit-il. « Quoi ? Pas même vaguement ? » « Oh, si fait. Par exemple, je dois entre 500 000 et 600 000 francs à la maison Claire, à Dervois 500 000 francs, pareille somme à peu près au Dubois d'Orléans. » « Et ensuite ? Mes souvenirs précis s'arrêtent là. Mais tu as bien au moins quelque part un carnet sur lequel tu inscrivais le chiffre de tes emprunts successifs. Non. Au moins tu as conservé des titres, des états d'inscription, des grosses de tes diverses obligations. Rien. J'ai fait hier matin une flambée de toutes mes paperasses. » Le châtelain du Valfeuilly fit un bond sur sa chaise. De telles façons d'agir lui semblaient monstrueuses. Il ne pouvait pas supposer qu'Hector posait. Il posait cependant. Et cette affectation d'ignorance absolue était une suprême fatuité de viveur et de bon ton. Se ruiner sans savoir comme est très noble, très distingué, très ancien régime. « Mais malheureux, s'écria Sauvresy, comment m'y prendre pour nettoyer ta position ? Eh, ne la nettoie pas, fais comme moi, laisse agir mes créanciers, ils sauront bien se débrouiller, sois tranquille, laisse-les mettre mes biens en vente. Jamais ! Si on arrive à une vente aux enchères, tu es absolument ruiné. Basta, un peu plus ou un peu moins. » Quel sublime désintéressement, pensait Berthe. Quelle insouciance, quel mépris admirable de l'argent. Quel noble dédain des détails mesquins et petits qui agitent le vulgaire. Sauvresy serait-il capable d'un pareil détachement? Certes, elle ne pouvait l'accuser d'avarice. Il devenait pour elle prodigue comme un voleur. Il ne lui avait jamais rien refusé. Il courait au-devant de ses plus coûteuses fantaisies. Mais enfin, il avait pour le gain l'âpreté d'un fils de paysan. Et en dépit de sa haute fortune, il gardait quelque chose de la vénération paternelle pour l'argent. Quand il avait un marché à passer avec un de ses fermiers, il ne craignait pas de se lever de grand matin, de monter à cheval, même en plein hiver, de faire 3 ou 4 lieues sous la pluie pour attraper quelques centaines d'écus. Il se serait ruiné pour elle, si elle l'eût voulu. Elle en était convaincue, mais il se serait ruiné économiquement, avec ordre, comme le plat bourgeois qui ouvre un compte à ses vices. Sauvresy réfléchissait. « Tu as raison, dit-il à Hector, tes créanciers doivent connaître exactement ta situation. Qui sait s'ils ne s'entendent pas ? La façon dont ils t'ont refusé 100 000 francs avec le plus touchant ensemble me le ferait supposer. Je vais aller les trouver. » La maison Claire où j'ai contracté mes premiers emprunts doit être la mieux renseignée. Soit, je verrai messieurs Claire. Mais tiens, si tu étais raisonnable, sais-tu ce que tu ferais ? Parle, tu m'accompagneras à Paris et à nous deux. Hector, à cette proposition, s'était dressé tout pâle, l'œil étincelant. Jamais, répondit-il violemment, jamais. C'est très cher du club l'épouvantait encore. Quoi ? Déchu, tombé, ridiculisé par son suicide manqué ? Il oserait reparaître sur le théâtre de sa gloire. Sauvresy lui ouvrait les bras. Sauvresy était un brave cœur l'aimant assez pour ne pas s'arrêter à la fausseté de sa situation, pour ne pas le juger un lâche de ce qu'il avait reculé. Mais les autres ? Ne me reparle plus de Paris, ajouta-t-il d'un ton plus calme. De ma vie, je le jure, je n'y remettrai les pieds. Soit, tant mieux, reste avec nous, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, ni ma femme non plus. Et un beau jour, nous te trouverons une héritière dans les environs. » Elle fit de la tête sans lever les yeux un signe affirmatif. Allons, reprit Sauvresy, il est temps que je parte si je veux ne pas manquer le chemin de fer. Mais je t'accompagne à la gare, fit vivement Trémorel. Ce n'était pas de sa part une prévenance purement amicale. Il voulait prier son ami de s'informer des objets restés au monde de piété de la rue de Condé, et aussi lui demander de passer chez Miss Fancy. De la fenêtre de sa chambre, Berthe suivait les deux amis qui, bras dessus, bras dessous, remontaient la route d'Orcival. Quelle différence, pensait-elle, entre ces deux hommes! Mon mari disait tout à l'heure qu'il voulait être l'intendant de son ami. Il n'a que trop l'air, en effet, de son intendant. Quelle démarche vraiment noble a le comte! Quelle aisance gracieuse! Quelle distinction suprême! Et cependant, mon mari, j'en suis sûre, le méprise, parce qu'il s'est ruiné à faire des folies. Ah, que n'est-il lui-même capable d'en faire? Il affectait, j'ai cru m'en apercevoir, certains airs de protection. Pauvre garçon! Mais est-ce que tout chez M. Trémorel n'annonce pas une supériorité innée ou acquise? Tout, jusqu'à son prénom. Hector, comme il sonne ce nom! Et elle prenait plaisir à le répéter avec des intonations différentes. Hector, Hector! Mon mari, lui, s'appelle Clément. Monsieur de Trémorel revenait seul du chemin de fer, gai comme un convalescent à ses premières sorties. Dès que Berthe l'aperçut, elle quitta vivement la fenêtre. Elle voulait rester seule, réfléchir à cet événement qui, tout à coup, tombait dans sa vie, analyser ses sensations, écouter ses pressentiments, étudier ses impressions pour s'en rendre maîtresse, enfin arrêter, si elle le pouvait, un plan de conduite. Elle ne reparut que pour se mettre à table, quand son mari, qu'on avait attendu, revint sur les 11 heures du soir. Sauvresy mourait de faim et de soif. Il paraissait brisé de fatigue, mais son excellente figure rayonnait. « Victoire, ami Hector, disait-il, tout en avalant son eau potage trop chaud. Nous te tirerons des mains des Philistins. Dame, les plus brillantes plumes de tes ailes y resteront, mais on te sauvera assez de duvet pour te faire un bon nid. » Berthe eut pour son mari un regard reconnaissant. « Et comment cela » demanda-t-elle. « C'est bien simple. Du premier coup, j'ai deviné le jeu des créanciers de notre ami. Il comptait obtenir la mise en vente de ses propriétés. Il les achetait en bloc, à vil prix, comme toujours en ces occasions, les revendait ensuite fort bien, en détail, et partageait le bénéfice. « Et tu empêcheras cela ?» fit Trémorel d'un air incrédule. « Parfaitement. Ah, j'ai dérangé le plan de ces messieurs. J'ai réussi, ce qui est une chance, mais j'ai du bonheur, moi, à les tous réunir le soir même. Vous allez, leur ai-je dit, nous laisser vendre volontairement, de gré à gré, sinon je me mets de la partie et je brouille les cartes. » Il me regardait d'un air goguenard, mais mon notaire que j'avais amené ayant ajouté « Monsieur et Monsieur Sauvresy, et s'il veut 2 millions, demain le crédit foncier les lui avancera. » Nos hommes ont ouvert de grands yeux et ont consenti à tout ce que je voulais. Quoi qu'il en eût dit, Hector connaissait assez ses affaires pour savoir qu'avec cette transaction, on lui sauverait une fortune petite en comparaison de celle qu'il possédait, mais enfin une fortune. Cette certitude le ravit, et dans un mouvement de reconnaissance vrai, serrant entre ses mains les mains de Sauvresy. « Ah, mon ami, s'écria-t-il, c'est l'honneur après la vie que tu me donnes, comment m'acquitter jamais ?»« En ne faisant plus que des folies raisonnables. » « Tiens, comme moi, » ajouta-t-il, en se penchant vers sa femme et en l'embrassant. « Et plus rien à redouter. »« Rien, c'est que j'aurais, morbleu, emprunté les 2 millions. »« Oui, et ils l'ont bien vu. »« Mais ce n'est pas tout. Les poursuites sont arrêtées. »« Je suis allé à ton hôtel et j'ai pris sur moi de renvoyer tous tes domestiques, à l'exception de ton valet de chambre et d'un palefrenier. »« Si tu veux m'en croire, nous enverrons dès demain tous les chevaux au Tattersall, où ils se vendront très bien. » Quant au cheval que tu as l'habitude de monter, il sera ici demain. Ces détails choquaient Berthe. Elle trouvait que son mari exagérait l'obligeance, descendant jusqu'à la servilité. Décidément, pensait-elle, il était né pour être intendant.
Thank you.
Sauvresy poursuivait. « Enfin, sais-tu ce que j'ai fait ? Songeant que tu es arrivé ici comme un petit Saint-Jean, j'ai donné l'ordre de remplir 3 ou 4 malles de tes effets et on les a portées au chemin de fer et en arrivant, j'ai envoyé un domestique les chercher. » Hector, lui aussi, commençait à trouver l'obligeance de Sauvresy excessive et qu'il le traitait par trop en enfant, ne sachant rien prévoir. Cette circonstance de son dénuement raconté devant une femme le blessait. Il oubliait que le matin même, il avait trouvé tout simple de faire demander du linge à son ami. Il cherchait une de ces plaisanteries fines qui sauvent une situation lorsque se fit un grand bruit dans le vestibule. Sans doute les malles arrivaient. Berthe sortit pour donner des ordres. « Vite, pendant que nous sommes seuls, dit Sauvresy, voici tes bijoux. Ah, j'ai eu du mal à les avoir. Ils sont méfiants au Mont-de-Piété. Je pense bien qu'ils ont commencé par me prendre pour l'associé d'une bande de filous. Tu n'as pas dit mon nom, au moins. Ça a été inutile. Mon notaire, par bonheur, était avec moi. Non, on ne saura jamais tout ce qu'un notaire peut rendre de service. Ne penses-tu pas que la société est injuste envers les notaires ? Trémorel pensait que son ami parlait bien lestement de choses sérieuses, tristes même, et cette légèreté de ton le contrariait. Pour finir, poursuivait Sauvresy, j'ai rendu visite à Miss Fancy. Elle était au lit depuis la veille. On l'y avait portée après ton départ, et depuis la veille, m'a dit sa femme de chambre, elle ne cessait de sangloter à fendre l'âme. Elle n'avait reçu personne ? Personne, absolument. Elle te croyait bien mort, et quand je lui ai affirmé que tu y étais chez moi, très vivant et très bien portant, j'ai cru qu'elle deviendrait folle de joie. Sais-tu qu'elle est vraiment jolie ?
Oui, elle n'est pas mal.
Puis, c'est, je crois, une bonne personne. Elle m'a dit des choses extrêmement touchantes. Je parierais presque, mon cher ami, qu'elle ne tient pas seulement à ton argent, et qu'elle a pour toi une sincère affection.
Hector eut un beau sourire de fatuité. Affection, le mot était pâle.
Bref, ajouta Sauvresy, elle voulait à toute force me suivre pour te voir, pour te parler. J'ai dû, pour obtenir qu'elle me laissât me retirer, lui jurer, après d'épouvantables serments, qu'elle te verrait demain, non à Paris, puisque tu m'as déclaré que tu n'y voulais plus y mettre les pieds, mais à Corbeil.
Ah, comme cela,
donc demain, à midi, elle sera à la gare. Nous partirons d'ici ensemble. Pendant que je prendrai le train de Paris, tu monteras, toi, dans celui de Corbeil. Arrange-toi de façon à faire semblant de manger et tu pourras là-bas offrir à déjeuner à Miss Fancy à l'hôtel de la Belle Image.
Il n'y a pas d'inconvénient ?
Pas le moindre. La Belle Image est une grande auberge que sa position à l'entrée de la ville, à 500 mètres du chemin de fer, mais absolument à l'abri des curieux et des indiscrets. On peut d'ici s'y rendre sans être vu de personne, en suivant le bord de l'eau et en prenant la rue qui tourne le moulin d'Arbray.
Hector préparait une objection. Sauvresy d'un geste lui ferma la bouche.
« Voici ma femme, dit-il, plus un mot. »
En montant se coucher ce soir-là, le comte de Trémorel était déjà beaucoup moins enthousiasmé du dévouement de son ami Sauvresy. « Il n'est pas de diamant où on ne trouve une tache en l'examinant à la loupe. » «
Le voici, se disait-il, prêt à abuser de son rôle de sauveur. Il se pose en mentor et fait des phrases. Les gens, ne sauraient-ils donc vous obliger sans vous le faire sentir ? Ne semblerait-il pas que par cette raison qu'il m'a empêché de me brûler la cervelle, je deviens quelque chose en lui appartenant ? Pour un peu plus, il allait ce soir me reprocher les magnificences de Fancy. Où s'arrêtera son zèle ? Ce qui n'empêche pas que le lendemain, au déjeuner, il prétexta un malaise pour ne pas manger et qu'il fasse remarquer à Sauvresy qu'il allait manquer le train. Comme la veille, Berthe, accoudée à sa fenêtre, les regardait s'éloigner. Si grand était son trouble depuis 48 heures, qu'elle ne se reconnaissait plus elle-même. Déjà, elle en était à n'oser plus ni réfléchir, ni descendre au fond de son cœur. Quelle puissance mystérieuse possédait-il donc cet homme pour être entré ainsi violemment dans sa vie ? Elle souhaitait qu'il s'éloignât pour ne plus revenir jamais, et en même temps, elle s'avouait qu'en partant, il emporterait sa pensée tout entière. Et elle se débattait sous le charme, ne sachant si elle devait se réjouir ou s'affliger des inexprimables émotions qui l'agitaient, s'irritant de subir une domination plus forte que sa volonté. Elle avait décidé que, ce jour-là, elle descendrait au salon. Il ne manquerait pas, ne fût-ce que par politesse, d'y descendre, et alors elle pensait que, le voyant de plus près, le faisant causer, le connaissant mieux, son prestige s'évanouirait. Sans doute, il allait revenir, et elle le guettait son retour, prête à descendre dès qu'elle le verrait au détour du chemin d'Orcival. Elle l'attendait avec des frémissements fébriles, anxieuses, comme on l'est au moment d'une lutte, sentant bien que ce premier tête-à-tête, en l'absence de son mari, serait décisif. Mais le temps passait. Il y avait plus de 2 heures qu'il était sorti avec Sauvresy et il ne reparaissait pas. Où pouvait-il être? En ce moment même, Hector arpentait la salle d'attente du chemin de fer de Corbeil, attendant Miss Fancy. Enfin, il se fit dans la gare un grand remue-ménage. Les employés couraient, les hommes d'équipe traversaient la voie roulant des brouettes, les portes s'ouvraient et se refermaient bruyamment. Le train arrivait. Bientôt, Miss Fancy parut. Sa douleur, sa joie, ses émotions ne l'avaient pas empêchée de songer à sa toilette, et jamais elle n'avait été plus tapageusement élégante et jolie. Elle portait une robe vert d'eau avec une traîne d'un demi-mètre, un manteau de velours qui n'en finissait plus, et un de ces chapeaux nommés chapeau à accident, parce qu'ils font cabrer les chevaux de fiacre sur le boulevard. Dès qu'elle aperçut Hector resté debout près de la porte de sortie, elle poussa un cri, écartant brusquement les gens qui se trouvaient sur son passage, et courut se pendre à son cou, riant et pleurant tout à la fois. Elle parlait très haut, avec des gestes que sa toilette faisait paraître plus désordonnée, et tout le monde pouvait l'entendre. « Tu ne t'es donc pas tué, » disait-elle. « Comme j'ai souffert, mais quel bonheur aujourd'hui !» Trémorel, lui, se débattait de son mieux, tâchant de calmer les bruyantes démonstrations de Fancy, la repoussant doucement, enchantée et irritée tout ensemble, et exaspérée de tous ses gros yeux fixés sur lui, en parisien habitué à passer inaperçu au milieu de la foule. C'est qu'aucun des voyageurs ne sortait, ils restaient tous là, béants, regardant, attendant. On les regardait, on les entourait, on faisait cercle, on était sur eux. « Allons, viens !» fit Hector à bout de patience. Et il l'entraîna, espérant échapper à cette curiosité naïve et imprudente de désœuvrer pour qui tout est une distraction. Mais ils n'y échappèrent pas. On les suivit de loin. Même quelques habitants de Corbeil, montés sur l'impériale de l'homme des bus qui fait le service entre la gare et le chemin de fer, prièrent le conducteur d'aller au pas afin de ne pas perdre de vue ces singuliers étrangers. Et ce n'est que lorsqu'ils eurent disparu sous le porche de l'hôtel que la voiture prit le trot. Ainsi furent déconcertées les prévisions de Sauvresy. L'entrée trop triomphale de Jenny fit sensation. On s'inquiéta, on alla au renseignement. L'hôtesse fut adroitement questionnée, et bientôt on sut que ce monsieur, qui allait attendre à la gare des dames si excentriques, était un ami intime du propriétaire de Valfeuillu. Ni Hector, ni Fancy ne se doutaient alors qu'ils étaient le sujet de toutes les conversations. Ils déjeunaient gaiement dans la plus belle chambre de la Belle Image, qui est une pièce immense, à 2 lits, avec une seule fenêtre donnant sur la place, décorée de tableaux bien vernis et bien encadrés, représentant des messieurs à cheval. Trémorel avait imaginé pour expliquer sa résurrection un petit roman assez probable, où il jouait un rôle héroïque très propre à redoubler l'admiration de sa maîtresse. Puis, à son tour, Miss Fancy déroulait ses plans d'avenir qui étaient, il faut lui rendre cette justice, des plus raisonnables. Résolue à rester quand même et plus que jamais fidèle à son Hector ruiné, elle allait donner congé de son appartement de 6 000 francs, vendre son mobilier et entreprendre un commerce honnête. Justement, elle avait retrouvé une de ses anciennes amies, très habile ouvrière en mode, qui ne demandait pas mieux que de s'associer avec une camarade qui apporterait l'argent, pendant qu'elle apporterait son savoir-faire. Elles achèteraient un fonds de modiste dans le quartier Bréda et, entre leurs mains, ils ne pouvaient manquer de prospérer et de donner de beaux bénéfices. Jenny parlait d'un petit air entendu, épuisant son répertoire de termes techniques. Hector riait. Ses projets de négoce lui semblaient du dernier comique, mais il était très sensible à cette abnégation d'une femme jeune et jolie, consentant à travailler, à faire quelque chose, et cela pour lui plaire. Malheureusement, il fallait se séparer. Fancy était venu à Corbeil avec l'intention d'y passer une semaine, mais le comte lui déclara que c'était absolument impossible. Elle pleura d'abord, beaucoup, se fâcha, puis finalement se consola à l'idée de revenir le mardi suivant. « Allons, adieu, » répétait-elle en embrassant Hector. « Au revoir, pense à moi. » Et souriant avec un geste mutin, elle ajouta « Je devrais être inquiète cependant. » Il y avait dans le chemin de fer des messieurs qui connaissaient ton ami et qui disaient que sa femme est peut-être la plus belle femme de France. Est-ce vrai?
Je n'en sais rien, ma foi. J'ai oublié de la regarder.
Hector ne mentait pas. Sans qu'il y parût, il était encore sous l'empire des angoisses de son suicide manqué. Il subissait cet étourdissement qui suit les grandes crises morales aussi bien que les chocs violents sur la tête, et qui empêche l'attention de s'arrêter aux choses extérieures. Mais ces mots, la plus belle femme de France, éveillèrent son attention, et il put, le soir même, réparer son oubli. Quand il rentra au Val-Feuillu, son ami n'était pas encore de retour, et Madame Sauvresy était seule, lisant dans le salon très vivement éclairé. Assis en face d'elle, mais un peu de côté, Hector pouvait l'observer à son aise tout en égrenant quelques phrases banales. Sa première impression fut défavorable à Berthe. Il trouvait sa beauté trop sculpturale et aussi par trop accomplie. Il lui cherchait des imperfections et, n'en trouvant pas, il s'effrayait presque de cette belle physionomie immobile, de ses yeux si clairs dont le regard vous arrivait comme une pointe d'épée. Peut-être son instinct seul lui faisait-il redouter à lui, l'homme faible, vacillant, irrésolu, une nature énergique, déterminée d'une audace implacable. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.